France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville, Christophe Chassol.
Soyez les bienvenus sur France Musique, bienvenue au Théâtre de l'Alliance Française. Le vendredi, eh bien cette émission se fait à deux voix. Bonjour Christophe Chassol.
Bonjour Saskia Deville.
Mais quel plaisir de vous retrouver, c'est toujours la même chose. Votre voix et puis vos deux mains, puisque vous êtes déjà derrière votre piano, vous allez jouer pour nous tout au long de cette émission. Et puis nous avons des auditrices, des auditeurs dans la salle, bienvenue. On est ravis de vous avoir avec nous pour cette première émission de rentrée. Alors Christophe, on va peut-être bien expliquer le concept de l'émission avant de commencer.
Le concept, il est tout simple. On a envie de vous faire partager nos morceaux préférés, tout ce qu'on aime en musique. Et pour ça, on va prendre un prétexte, un thème, un argument, une question. Voilà.
Un petit peu comme ça, sorti du chapeau, peu importe le thème, finalement, c'est vrai que c'est le plaisir du partage de la musique. Parfois, voilà. Ce sera même tiré par les cheveux.
Ouais.
Mais on vous fera écouter de très, très belles choses, ou des choses très, très intéressantes. Alors, Christophe, allez, je vous laisse dévoiler le premier thème que nous avons choisi.
Pour aujourd'hui, ça va être comprendre pour aimer. Est-ce qu'il faut comprendre pour aimer ? Est-ce qu'on aime mieux quand on comprend ?
Vous avez déjà une réponse à cette question, vous ?
Moi, personnellement, j'adore comprendre et ça me fait aimer mieux, oui.
Voilà. Moi, je pense que parfois, ne rien comprendre n'empêche pas d'apprécier. Mm-hmm. On va se faire découvrir nos morceaux l'un l'autre. Je vous laisse commencer, Christophe.
Bon, alors pour commencer, moi, je vais vous parler de ma tendre enfance où je travaillais le piano avec mon papa qui était derrière moi, qui était très, très strict. Et je travaillais des pièces pour enfants de Prokofiev que j'adorais. Mais il y avait quelque chose. Je vais vous jouer celle qui s'appelle Evening. Écoutez, ça fait... Voilà, c'est le début de
cette
pièce qui s'appelle Evening. Voilà, tout petit, je bossais ça. Et il y a un passage, je ne comprenais pas ce qui se passait. Vraiment, je n'arrivais pas à saisir ce qui se passait. Je vous le rejoue, c'est à ce moment-là. Donc. Ici. Et ici. Donc je regardais la partition, je me disais, mais je comprends pas, je me trompe, mais qu'est-ce qui se passe, papa, aide-moi. C'était... Et... Je me disais, mais je me trompe, je fais une fausse note. Et j'ai vraiment essayé de comprendre.
Et qu'avez-vous compris?
J'ai compris, en solfège, dans les cours de solfège, on nous apprenait que existait la dissonance, voilà, des deux notes ensemble, qui ne sonnent pas bien ensemble, mais une fois que la tension, une fois que ça se détend, ça marche. Vous voyez, donc, voilà, c'était ça. Alors jusqu'à aujourd'hui, j'adore juste ce moment que j'ai vraiment essayé d'analyser, essayé de comprendre. Et je le chante, ça fait « Mi, la, sol, fa, fa, ré, la, mi, fa ». Voilà, c'est des dissonances et le Prokofiev, lui, il nous titille, quoi, là. Il nous donne un peu de relief, il nous donne du poil à gratter. C'est ce qui fait un peu le jus et le sel de ce morceau. Et alors je vous le refais juste, je vous le refais maintenant avec la conscience qu'il y a...
Cette dissonance.
Donc. Ah, là, je me suis trompé, par exemple. Donc, c'est autre chose. Vous voyez, ça passe comme une lettre à la poste maintenant.
Finalement, ça paraît très naturel, même s'il y a ces petites dissonances. Donc, de les comprendre, vous les avez mieux appréciés. Tiens, ça intervient dans votre processus, vous, de composition en tant que compositeur, Christophe.
Les idées et comprendre une idée permet de développer quelque chose d'organique, voilà. Que vous dire ? Moi, je pense que le terme comprendre, il peut se comprendre aussi comme saisir, quoi, ou inclure. Par exemple, cette pièce comprend des chaises, des sièges. il y a des sièges.
Et puis il y a quand même des auditrices et des auditeurs dessus. Hein.
Oui, pardon. ce théâtre comprend des auditeurs, c'est-à-dire des gens. C'est-à-dire il inclut des gens. Donc plus on inclut, plus
de
on,
choses, plus d'éléments,
plus on les aime, quoi. Faut dire plus quand on est ensemble, on s'aime. C'est ça que ça veut dire.
C'est beau ce que vous dites, Christophe.
Beau, bien sûr.
Alors moi j'ai quelque chose à vous faire entendre pour ma part, et je pense que vous allez l'aimer aussi. Faut-il comprendre une œuvre pour l'aimer? Ça c'est vraiment un vaste thème. On peut l'interpréter de plein de manières différentes. Moi il y a des choses, même si j'en comprends l'histoire, que je n'arrive toujours pas à saisir ou du moins à mettre des mots dessus. Et c'est peut-être en fait pas si grave que ça. Moi j'ai choisi de vous faire écouter pour commencer. Un extrait d'un des plus gros tubes du répertoire, c'est le trio avec piano en mi bémol majeur de Franz Schubert, le deuxième mouvement que vous allez très certainement reconnaître. Ce qui me fascine juste avant qu'on l'écoute, c'est que chez Schubert, compositeur immense représentant de la musique romantique allemande, mort à 31 ans, né en 1797, mort très jeune, donc ce qui me fascine, c'est que sa musique n'est jamais complètement joyeuse, ni complètement triste. On est.
Vous voulez dire que vous ne la saisissez pas complètement?
Ah, c'est beau, exactement. Vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est une sorte de clair-obscur, de quelque chose d'insaisissable qui est à la fois, quand on l'écoute proche du. Ouais, il y a un côté un peu plaisir, malaisant. Enfin, je sais pas, un truc que j'aime beaucoup. Je vous propose d'en écouter le tout début. Tout commence sous un ciel incertain. Vous entendez tout le mystère dont je vous parlais, Christophe?
Ouais, mais je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas.
Ouais, mais alors je vais tout vous expliquer. Musique tout en pudeur, tout en clair-obscur. Quand je l'écoutais pour la première fois, et je pense que nos éditrices, nos auditeurs qui ne connaissent pas, qui n'ont encore jamais entendu ça, on peut pas ne pas aimer. C'est impossible. Ou alors qu'on m'écrive, je ne sais pas, sur francemusique.fr pour me le dire, mais je n'y croirais pas un seul mot. Je n'en croirais pas un seul mot. J'ai essayé, finalement, après coup, de comprendre pourquoi j'aimais tant ça.
Oui,
je vais vous donner quelques pistes. C'est une musique qui, pour moi, ressemble à Schubert. Je vais vous donner quelques petites informations sur sa vie. Donc, c'est un compositeur autrichien, je le disais, qui est né en 1797. Il a eu une enfance relativement heureuse, une adolescence paisible. Et il a vécu, puisqu'il est mort très jeune, et c'est une exception aussi à l'époque, il a pu vivre de sa plume, des cours qu'il donnait. Donc il a une vraie profession de musicien, c'est pas l'artiste maudit, désargenté, c'est quelqu'un qui vit relativement confortablement. Mais il y a deux choses à souligner. On raconte, bon ça c'est pour la petite anecdote, et puis c'est un petit peu rigolo, mais il avait un physique vraiment ingrat, il était super timide.
Il était moche donc. Hein.
Voilà, on peut le dire comme ça. D'où une certaine solitude affective. Et deuxième chose, il a été dans les dernières années de sa vie malade, très malade. Il en est mort à 31 ans.
Quelle maladie, ça, ce
la syphilis. Ah. Voilà.
Donc il n'était pas si seul que ça.
Voilà, il n'était pas toujours très seul. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que les dernières années de sa vie, il y a cet aspect un petit peu tragique. Voilà, il est malade, condamné, et donc on retrouve dans sa musique, comme ici, on peut l'entendre, un petit peu de lumière aussi, cette conscience simultanée de la vie, de la mort, qu'on retrouve dans sa musique.
Mmh. Et vous pensez que c'est ça qui vous a fait, qui fait que c'est populaire et que tout le monde aime?
Mais pas du tout, puisque je vous l'ai dit que moi, dès la première écoute, je l'aimais déjà. Donc c'est vous dire, on a là tout l'univers de Schubert, tout entier, clair, obscur, à la fois tendre et angoissé. Et finalement, peu importe qu'on connaisse la vie de Schubert ou pas, on ne peut pas ne pas être séduit finalement par cette mélodie qui est clair-obscur, je le disais.
Ok, bon, je suis d'accord. Mais non, mais moi je veux dire, il y a plein de choses que j'aime sans les comprendre d'abord. Mais ce que je veux dire, c'est que pousser l'analyse pousser la compréhension.
Mais n'apporte pas toujours quelque chose, vous voyez.
Mais n'enlève pas la poésie, en tout cas.
Exactement.
Moi, ça, la poésie reste, même si on me fait un cours dessus, même si c'est un cours magistral avec un professeur un peu chiant. C'est pas grave, ça me donne des informations sur l'œuvre. Et j'aime bien avoir toutes ces informations pour développer mon propre fil.
Eh bien, allez-y, faites-nous un cours magistral sur Steve Reich.
Magistral, je sais pas, mais... Steve Reich, c'est un compositeur que j'adore. Alors, il est né en 36, un compositeur américain. Je sais pas si vous connaissez ici Steve Reich un peu. C'est ce génial compositeur qui est un peu l'inventeur du minimalisme, cette espèce de musique qui évolue par petites cellules et qui évolue très lentement, mais qui peut être très rapide et très lente à la fois. Voilà, j'adore cette musique. Et bon, dans ses travaux de jeunesse, en 68, il a fait une pièce qui s'appelle... Est-ce que je vous dis le titre? Parce que ça aide à comprendre.
On va écouter la pièce. Je croyais qu'on aimait bien avoir des informations pour mieux comprendre.
Mais justement, c'est pour faire le point. Oui, on écoute comme ça sans savoir ce que c'est. C'est beau, hein?
C'est intéressant.
Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça s'appelle Pendulum Music. Ça veut dire, voilà.
C'est rigolo, pendule. On dirait presque des oiseaux.
Et alors, mais c'est drôle, j'ai demandé à un enfant hier ce qu'il pensait que c'était, il m'a dit des oiseaux.
Vous êtes en train de me dire que je pense comme un enfant ou...
Mais c'est très bien de penser comme un enfant.
Je suis assez d'accord. Mais c'est pas du tout ça.
Oui, non, ce sont pas des oiseaux. Alors, comment ça se passe? Il y a une barre métallique à laquelle sont suspendus plusieurs micros par un fil et en dessous des enceintes. Et donc, les joueurs prennent les micros d'en haut et les lâchent. C'est le début de la pièce. Et ils basculent comme ça. Et en passant devant les enceintes, ils font un larsen. Voilà. Et la pièce s'arrête quand
les micros s'arrêtent.
On finit de se balancer. Mais vous voyez la musique que ça crée?
Ça, c'est le début de la pièce.
Ouais, alors on va écouter la fin. De plus en plus lentement et de plus en plus proche du larsen. De l'enceinte, pardon.
En fait, ça ne s'arrête jamais, cette pièce.
Ça s'arrête quand ils arrêtent de balancer.
Oui.
Quand les micros se sont arrêtés de balancer. Vous voyez?
Et vous avez un deuxième exemple.
J'ai un deuxième exemple aussi de Steve Reich. Alors, c'est une pièce qui s'appelle « Four Organs », ça veut dire « quatre orgues ». Alors, vous voyez, elle est beaucoup plus lumineuse, elle est beaucoup plus facile d'accès. Et je vous passe le début et puis je vais vous expliquer ensuite ce qui s'y passe. On écoute. Alors là, on a quoi? On a un joueur de maracas qui fait pendant les 20 minutes du morceau ce mouvement. Voilà, il bougera jamais. Hein. Et on a quatre organistes qui plaquent un accord, cet accord de mi sus 4. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de la pièce, comme je vous ai parlé du minimalisme, c'était une musique qui se déploie lentement, qui change lentement, au fur et à mesure, il plaque l'accord un petit peu plus longtemps à chaque fois. Donc ça fait... Voilà, c'est vraiment de la contemplation. Enfin, et c'est contempler un son s'allonger au fur et à mesure. On va écouter la fin de cette pièce.
Et là, les accords se rejoignent.
Ben là, c'est tellement long, il reste tellement longtemps qu'on a un son continu, quoi. On a commencé comme ça, je vous le rappelle. Et au bout d'une vingtaine de minutes, on en est là. Donc, pour moi, comprendre ça nous permet de mieux écouter et d'apprécier mieux des musiques un peu complexes, des musiques un peu conceptuelles.
De comprendre la mécanique de la pièce, finalement.
Ben oui, de comprendre la mécanique, ouais.
France Musique, Saskia Deville, Christophe Chassol.
Christophe, je ne sais pas si vous allez parfois à l'opéra.
Jamais, Saskia.
C'est vrai? Ah, je vais vous emmener, c'est bien dommage. Eh bien, si vous allez à l'opéra.
Pour voir du John Adams, ça.
Ah oui, c'est de l'opéra, hein.
Oui, ça, oui, certaines pièces.
On va y aller ensemble.
Mais c'est vrai cela que dit, j'ai du mal, hein.
C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est du fait de ne pas comprendre les paroles, ou de, voilà, c'est pas toujours évident quand les chanteurs sont en pleine action de suivre effectivement le livret, l'histoire de l'opéra. Eh bien, on a des surtitres, ça, je crois que ça fait depuis les années 80 que, ouais. Voilà, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les grandes maisons d'opéra et les petites aussi, hein, un petit peu partout.
Idée.
Et ce qui permet donc une meilleure compréhension de du livret. Cela dit, ce n'a pas toujours été le cas. Et puis, les opéras sont chantés dans toutes les langues. Moi, j'avais envie de vous faire écouter un titre, un de mes airs d'opéra préférés, tout simplement. Je ne parle pas italien, donc je me rappelle très très bien la toute première fois où je l'ai entendu. J'étais à la maison, c'était à la radio. Et j'ai écouté cet air et j'ai été littéralement subjuguée.
Qu'est-ce que vous faisiez pendant que vous écoutiez ?
Ben rien, du coup je me suis arrêtée de tout faire.
Vous êtes posé, vous avez écouté ou vous faisiez d'autres choses en même temps?
Je faisais d'autres choses et puis quand ça a commencé, je me suis arrêtée.
C'est juste pour contextualiser.
Exactement, voilà. J'ai été happée par cet air d'opéra. Alors juste avant que je vous explique de quoi il s'agit et de qui il s'agit, je vous propose d'en écouter un extrait. Quelle beauté, n'est-ce pas, Christophe ?
N'est-ce pas ? C'est très beau. Mais je suis sûr que là, vous allez nous en parler.
Ah mais oui, évidemment que je vais vous en parler. Alors, c'est un air qui chantait à la toute fin de l'opéra de la Traviata de Giuseppe Verdi, opéra 1853, basé sur le roman La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. Donc, en italien, la Traviata, ça veut dire la dévoyée, la femme un peu perdue. En fait, c'est l'histoire de Violetta Valeri, qui chante ici, courtisane dont un noble Alfredo tombe amoureux. Violetta, qui d'habitude est une femme volage, va tomber elle amoureuse pour la première fois de sa vie. Mais le père d'Alfredo va s'en mêler, va séparer les jeunes amants, grand désespoir des deux amants évidemment. Et puis à la fin, c'est terrible, décidément après Schubert, Violetta tombe malade, elle aussi. Elle est atteinte de la tuberculose et cet air déchirant, eh bien, elle le chante sur son lit de mort. On a entendu au début adieu. En fait, elle dit adieu au rêve du passé. On commence dans une ambiance, une atmosphère assez sombre. Ici, si vous écoutez, on peut peut-être écouter. On est de quelque chose de beaucoup plus lumineux ici. Elle se rappelle son amant. Elle se rappelle l'amour de son amant qui la réconfortait. Et ce que je trouve aussi fascinant, c'est qu'à la fin, l'air fini, on va la voir une deuxième fois ici, fini littéralement en l'air, on s'élève avec elle, avec cette voix. Elle est en acceptation finalement de ce qui l'attend, à savoir la mort, une mort imminente, et sa vie de dévoyée l'accepte aussi. Elle ne mérite ni fleurs, ni couronne, ni l'amour de son amant perdu. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fantastique à cet air-là, dans le sens où, là, je viens de vous expliquer toute l'histoire de l'opéra et de cet air-là, mais on peut tout à fait se laisser porter par une voix, par un souffle ici, en plus avec ce hautbois qui prend le relais quand elle est essoufflée, parce que malade. Et je trouve que c'est un des plus beaux airs d'opéra, donc non, absolument aucun besoin de comprendre tout ce que chantent les chanteurs à l'opéra.
Et alors, pourquoi vous êtes intéressé à ça, à se connaître cette histoire, s'il n'y a aucun besoin?
Parce que c'est mon métier aussi, Christophe. Vous savez, j'aime bien expliquer les choses, les musiques.
Vous aimez bien expliquer.
Ah oui, c'est autre chose.
Vous aimez bien inclure les autres gens.
Exactement, on parlait de, effectivement, comprendre.
Ouais, comprendre comme inclure.
Exactement. Ouais, écoutez, la toute fin. Moi, si j'écoute ça dans une salle, je pleure.
Et aussi l'idée, par exemple, si je vous dis que c'est une valse.
Mais il y a ce rythme de valse, rythme ternaire complètement, qui accompagne. Parce qu'avant, elle organisait des grandes fêtes avec du monde chez elle, et c'est vrai qu'il dansait beaucoup, donc vous avez tout à fait raison.
Regardez, si je vous dis, on sait comment le danser, quand on sait comment danser quelque chose, on s'implique plus dans cette chose.
Mais en fait, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre. Allez, Christophe, on passe à l'extrait suivant, Miles Davis.
Oui, bah alors là, je vous parle d'un disque que j'adore, qui s'appelle Beaches Brew, et que j'ai supplié mon père de m'acheter quand j'avais 17 ans. Et il m'a acheté ce disque. On va faire ça, et j'ai mis peut-être un an avant de l'aimer, quoi. Au début, je me suis dit, oh mince, je me suis trompé, c'est incompréhensible, cette musique, elle est trop bizarre, je ne comprends pas d'où elle vient. Donc ce disque a 50 ans, et c'est un gros succès populaire pour Miles Davis, qui est quand même, un gros succès populaire avec une musique quand même assez difficile. On va écouter l'introduction du morceau qui s'appelle Beaches Brew. Bon, voilà, moi j'ai mis un an parce que je ne savais pas ce que c'était, par exemple, un delay. C'est un effet qui permet de répéter une note.
C'est-à-dire?
Écoutez. La trompette va être passée dans un delay, c'est-à-dire un effet qui la fait se répéter, vous allez voir. Un écho. Voilà, rien que, c'est une petite information. Mais je veux dire, après savoir qui joue, combien d'instruments, par exemple, il y a trois pianistes au clavier. Juste savoir ça, ça veut dire qu'on sait ce qu'on entend et on l'apprécie encore plus.
Oui, mais cela dit, vous ne l'avez pas aimé au premier abord. En fait, c'est ça qui est intéressant.
Ah, c'est parce qu'elle est difficile, mais c'est bien pour les musiques difficiles.
Ah, vous avez prévenu, chers auditeurs, ce sont des thèmes prétextes. De toute façon, je pense qu'il y a tellement de manières de l'interpréter, et c'est ça qui est finalement merveilleux. On peut écouter plein de choses. Eh bien, merci Christophe d'avoir partagé cette émission avec moi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe, Pauline Boisaubert, Éric Lancien, Marie Lepeintre, Jean-Benoît Tétu, Stéphane Touvenin, Antoine Tropé, Annabelle Touloumet et Charles Cérès. Et puis merci à nos auditrices, à nos auditeurs qui étaient avec nous à l'Alliance Française.
réécouter sur francemusique.fr.